Ô vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est douleur pareille à ma douleur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, ce début de septembre est bien riche en fête de la Sainte Vierge. Nous avons eu la nativité de Notre-Dame dimanche dernier. Ce jeudi, c'était le Saint-Nom de Marie. Et aujourd'hui, la liturgie nous invite à contempler la vie de souffrance de la Vierge Marie. Nous avons déjà eu, au cours de cette année liturgique, l'occasion de célébrer les souffrances de Marie. C'était le vendredi de la première semaine de la Passion, la fête de Notre-Dame de Compassion. Alors, pourquoi cette deuxième fête en l'honneur des souffrances de Marie? Pourquoi cette fête si loin du cycle du carême, de ce temps consacré spécialement à contempler le mystère de la croix, le mystère de la Passion? Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord tourner nos regards vers notre Seigneur Jésus-Christ. Or, notre Seigneur Jésus-Christ a pour fonction essentielle, pour mission essentielle d'être un sauveur. C'est son nom, Jésus, signifie sauveur. Et toute sa vie, tout son être sont essentiellement ordonnés au sacrifice de la croix. Il s'est incarné afin de réparer l'offense faite à Dieu par le péché. Il fallait qu'il satisfie à la justice divine. Satisfaire, c'est-à-dire faire assez, faire suffisamment, compenser le mal produit par le péché. Car il y a dans le péché mortel un mouvement de la volonté par lequel l'homme se détourne totalement de Dieu. Aversio a Deo, une aversion de Dieu, on se détourne de Dieu. Pour se tourner vers tout entier, vers un bien créé, un bien fini, conversio ad creaturam. Et si le bien créé vers lequel l'homme se tourne est fini, comme tout ce qui est créé, Dieu de qui il s'est détourné est infini. Le péché mortel est donc d'une gravité infinie à cause de la dignité de la personne qui a été offensée. Il est la négation pratique de la dignité infinie de Dieu, le souverain bien, et il détruit le règne de Dieu en nous. Seul notre Seigneur, Verbe de Dieu fait chair, a pu offrir à Dieu une satisfaction parfaite et adéquate pour l'offense provenant du péché mortel. En effet, seul son amour et son oblation plurent à Dieu autant et même davantage que ne lui déplaisent tous les péchés mortels. Notons qu'une œuvre méritoire pour être satisfactoire, c'est-à-dire réparatrice et expiatrice du péché, doit comporter quelque chose d'afflictif, quelque chose de pénible, une souffrance. Notre Seigneur, pendant sa passion, cloué sur la croix, par l'offrande de sa vie dans les plus grandes souffrances physiques et morales, a offert à son Père une satisfaction d'une valeur infinie, qui dépasse de très loin l'offense faite à Dieu par les péchés de tous les hommes de tous les temps. Et Dieu sait s'il y en a eu, et des péchés bien graves. Seul notre Seigneur pouvait ainsi satisfaire pleinement en stricte justice. Car la valeur de la satisfaction provient de l'excellence de la personne. Et quand cette personne est divine, la valeur est infinie. Cependant, à cette satisfaction parfaite, adéquate du Sauveur, Dieu a voulu que soit ajoutée une satisfaction de convenance, c'est-à-dire une satisfaction qui n'était pas obligatoire. Dieu aurait pu s'en passer. Mais, dans le plan divin, il convenait hautement à la sagesse de Dieu que cette satisfaction de convenance soit ajoutée à la satisfaction en stricte justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que la Vierge Marie intervient. Notre-Dame, en tant que mère du Sauveur, a été unie à son Fils par une parfaite conformité de volonté, par l'humilité, la pauvreté, les souffrances et les larmes. C'est en ce sens qu'elle a satisfait avec lui. Et les souffrances de la Vierge Marie ont eu ce caractère de satisfaction, d'expiation, car, comme notre Seigneur et avec lui, elle a souffert du péché. Notre-Dame a souffert du péché comme son Fils. Et ceci dans la mesure d'un triple amour. Premier amour, pour Dieu offensé par le péché. Deuxième amour, amour pour son Fils, crucifié à cause de nos fautes. Troisième amour, amour pour nos âmes, que le péché ravage et fait mourir. Et Notre-Dame a aimé à proportion de la plénitude de grâce et de charité dont elle jouissait. Or, dès l'instant de sa conception, la grâce dont fut comblée la Vierge Marie dépassait déjà, de très loin, la grâce finale de tous les saints et de tous les anges réunis. Et cette grâce initiale donnée à la Vierge Marie, à sa conception, n'a cessé depuis lors de grandir par des accroissements admirables, de telle sorte qu'à la fin de sa vie, Notre-Dame est beaucoup plus sainte qu'au début de sa vie, alors qu'elle était déjà, dès le début, remplie de grâce de manière extraordinaire. Et déjà, Notre-Dame, par les actes les plus faciles, a mérité plus que les martyrs dans leurs pires tourments. Saint-Louis Marie Rion de Montfort nous dit, dans son traité de la vraie dévotion, qu'il y a plus d'amour de Dieu dans la Vierge Marie qui ramasse une épingle que dans Saint-Laurent qui souffre les pires tourments sur son gril. Quel ne fut pas, dès lors, le prix de ses souffrances au pied de la croix. Une lumière surnaturelle éclairait son intelligence. Marie voyait dans cette lumière que toutes les âmes étaient appelées à chanter la gloire de Dieu. Et au lieu de cela, elle savait qu'un très grand nombre se tournerait vers les convoitises de cette terre, comme saint Jean les appelle, concupiscence de la chair, comme s'il n'y avait d'autre amour désirable que l'amour charnel, le plaisir des sens, concupiscence des yeux, comme s'il n'y avait d'autre gloire que celle de la fortune et des honneurs, orgueil de la vie, comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'était ni notre Créateur et Maître, ni notre fin, comme si nous n'avions d'autre fin à notre vie que nous-mêmes. Ce mal, Marie le voyait dans les âmes, comme nous, nous sommes capables de voir des plaies purulentes dans un corps malade. Or, la plénitude de grâce qui n'avait cessé de grandir en Marie avait considérablement augmenté en elle sa capacité de souffrir, du pire de tous les maux, le péché, comme nous l'avons dit. Et on souffre davantage du péché à mesure que l'on aime Dieu davantage. Il n'y a pas de plus grande opposition que celle entre Dieu et le péché. Et plus on aime Dieu, plus on doit souffrir du péché, normalement. Surtout, Notre-Dame vit sans illusion possible se préparer et se consommer le plus grand des crimes qui fut jamais, le déicide. Elle vit cette haine terrible, cette haine satanique, contre celui qui est la lumière même et l'auteur du salut. Pour saisir ne serait-ce qu'un peu ce qu'a été la souffrance de la Vierge Marie, il faut se rappeler de quel amour naturel et surnaturel elle chérissait son Fils unique, mais également combien elle adorait son Fils unique en tant que Dieu, et qu'elle aimait donc beaucoup plus qu'elle-même. Elle n'ignorait rien non plus des causes de la crucifixion, les causes humaines, l'acharnement des Juifs, le peuple élu, son peuple à elle, ni les causes supérieures, la rédemption des âmes pécheresses. On peut ainsi mieux comprendre la profondeur et l'étendue des souffrances de Marie Corédemptrice. Si Abraham a héroïquement souffert en s'apprêtant à immoler son fils, ce ne fut que pendant quelques heures, et un ange descendit du ciel pour empêcher l'immolation d'Isaac. Au contraire, depuis le moment où le vieillard Siméon a prédit à Marie la passion de son fils, déjà clairement annoncée en Isaïe, et sa passion à elle, elle n'a cessé depuis d'offrir celui qui devait être prêtre et victime, et de s'offrir avec lui. Cette oblation douloureuse dura non seulement quelques heures, mais des années. Et si un ange descendit du ciel pour arrêter l'immolation d'Isaac, aucun ne descendit pour empêcher celle de Jésus. Bossuet a dit en ce sens, « Ce fut la volonté du Père éternel que Marie soit non seulement immolée avec cette victime innocente et attachée à la croix du Sauveur par les mêmes clous qui le percent, mais encore qu'elle soit associée à tout le mystère qui s'y accomplit par sa mort. » Le grand évêque continue. « Au pied de la croix, nous dit-il, de quels yeux Marie regarde son fils tout sanglant, tout couvert de plaies qui n'a plus figure d'homme. Si elle s'approche de cet autel, c'est qu'elle veut y être immolée. Et c'est là, en effet, qu'elle sent le coup du glaive tranchant, qui, selon la prophétie du bon Siméon, devait ouvrir son cœur maternel par de si cruelles blessures. » L'amour de Marie pour son fils crucifié suffit pour son martyre. Il ne faut qu'une même croix pour son Fils bien-aimé et pour elle. Elle y est clouée par son amour pour lui, amour qui lui fait ressentir toutes les souffrances physiques et morales, et cela bien plus que les stigmatisés ne les ont ressenties. Une grande douleur est comme une mère en furie. Certaines personnes sont devenues folles après des excès de douleur. Mais notre Seigneur a dompté les eaux, et de la même façon qu'il a gardé la paix sur la croix au milieu de la tempête, il a également donné à sa Sainte Mère de garder cette même paix pour pouvoir mieux souffrir. Les saints qui ont été le plus associés aux souffrances du Sauveur ne sont pas entrés, autant que Marie, dans les dernières profondeurs de la Passion. Sainte Catherine de Ricci eut tous les vendredis, pendant 12 ans, une extase de douleur qui durait 28 heures et pendant laquelle elle revivait toutes les souffrances du chemin de la croix. Mais ces souffrances et celles des autres stigmatisés n'approchent pas de celles de la Vierge Marie. Tous les déchirements du cœur de Jésus ont eu leur retentissement dans le cœur de Marie, et elle serait morte d'une pareille torture si elle n'avait été surnaturellement soutenue par un secours exceptionnel. Enfin, Marie, qui a enfanté son Fils sans douleur, elle n'a en effet pas connu la souillure du péché originel et n'a donc pas eu à en subir le châtiment, enfante cependant les âmes des élus au milieu des plus grandes souffrances. Qu'il est grand le prix qu'elle a payé pour nous. Il y en a coûté son Fils unique, l'objet le plus tendre de son amour. Cette deuxième fête des souffrances de Notre-Dame, placée si proche de sa nativité, a donc bien sa raison d'être. Nous rappeler qu'il était essentiel au rôle de la Sainte Vierge de souffrir avec son Fils. Elle est la mère de Jésus, elle est la mère de Dieu, elle est la mère du Dieu Sauveur, elle est donc mère de Jésus crucifié, elle est donc mère des douleurs. Mater Dolorosa. Aussi, il serait bien malvenu, bien inconvenant de ne pas repasser fréquemment dans notre esprit les souffrances de notre Mère du Ciel. Ô vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez si les douleurs pareilles à ma douleur. Qui ne trouverait pas à les contempler un motif profond d'un vrai repentir de ses fautes? Nous ne pourrons jamais mesurer combien nos âmes ont coûté à notre Seigneur et à sa Sainte Mère en souffrance, en douleur. Et pour cela, il n'y a pas de meilleur moyen que la fidélité à notre rosaire, à la contemplation de notre rosaire, une prière méditée. Contempler les mystères de la vie de Jésus et de Marie, et tout spécialement des mystères douloureux. De plus, Notre-Dame est devenue, par cette association si intime au mystère de la croix, la consolatrice des affligés et la patronne de la bonne mort. Nous ne pouvons pas soupçonner combien de souffrances ont été fécondes depuis plus de 20 siècles par l'intercession de la Vierge Marie. Par son intercession, par son secours, nous aurons nous aussi les grâces pour porter les croix qui semblent trop lourdes à nos faibles épaules. La Vierge Marie nous donnera cet esprit de la croix, cet esprit d'acceptation, cet esprit de silence, cet esprit si surnaturel et si rare aujourd'hui, le naturalisme ayant tout envahi. Rappelons-nous ce que dit Saint Louis-Marie dans son beau cantique « Le triomphe de la croix ». C'est la deuxième strophe, tout près du début. La nature abhorre la croix. La raison la combat. L'homme savant l'ignore et le démon l'abat. Souvent le dévot même ne l'a point dans le cœur. Quoiqu'il dise qu'il l'aime, au fond c'est un menteur. Le dévot qui dit qu'il aime la croix, au fond est un menteur. Et nous sommes tous un peu dans ce cas-là. Nous sommes tous un peu des menteurs quand nous disons que nous aimons la croix et que nous la portons si mal quand Dieu nous en fait partager le poids. Alors passons par l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle nous aide à porter nos croix, qu'elle nous rende un peu moins menteurs vis-à-vis de cet amour de la croix et que nous puissions nous aussi faire nôtre ces paroles du Stabat Mater. Donnez-moi de pleurer en toute vérité comme vous près du crucifié tant que je vivrai pour que à l'heure où mon corps va mourir, à mon âme fait obtenir la gloire du paradis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.